Chapitre 4 Suite du dialogue entre A et B. A. J'estime cet aumônier poli. B. Et moi, beaucoup davantage, les mœurs des Tahitiens et le discours de Roux. Quoi comme modelé à l'européenne? Bon, je n'en doute pas. Ici, le bon aumônier se plaint de la brièveté de son séjour dans Tahiti et de la difficulté de mieux connaître les usages d'un peuple assez sage pour s'être arrêté de lui-même à la médiocrité ou assez heureux pour habiter un climat dont la fertilité lui assurait un long engourdissement, assez actif pour s'être mis à l'abri des besoins absolus de la vie et assez indolent pour que son innocence, son repos et sa félicité n'eussent rien à redouter d'un progrès trop rapide de ces lumières. Rien n'y était mal, par l'opinion et par la foi, que ce qui était mal de sa nature. Les travaux et les récoltes s'y faisaient en commun. L'acception du mot « propriété » y était très étroite. La passion de l'amour, réduite à un simple appétit physique, n'y produisait aucun de nos désordres. L'île entière offrait l'image d'une seule famille nombreuse dont chaque cabane représentait les divers appartements d'un de nos grandes maisons. Il finit par protester que ces Tahitiens seront toujours présents à sa mémoire, qu'il avait été tenté de jeter ses vêtements dans le vaisseau et de passer le reste de nos séjours parmi eux, et qu'il craint si bien de se repentir plus d'une fois de ne l'avoir pas fait. Malgré cet éloge, quelles conséquences eut-il à tirer les mœurs et les usages bizarres d'un peuple non civilisé? Je vois qu'aussitôt que quelques causes physiques, telles par exemple que la nécessité de vaincre l'ingratitude du sol, ont mis en jeu la sagacité de l'homme. Cet élan le conduit bien au-delà du but et que, le terme du besoin passé, on est porté dans l'océan sans borne des fantaisies, d'où l'on ne se retire plus. Puisse l'heureux Tahitien s'arrêter où il en est. Je vois qu'excepté dans ce recoin écarté de notre globe, il n'y a point eu demeure et qu'il n'y en aura peut-être jamais nulle part. Mais qu'entendez-vous donc par demeure? Oh, j'entends une soumission générale et une conduite conséquente à des lois bonnes ou mauvaises. Si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes. Si les lois sont mauvaises, les mœurs sont mauvaises. Et si les lois bonnes ou mauvaises ne sont point observées, la pire condition d'une société, il n'y a point de mœurs. Et comment voulez-vous que des lois s'observent quand elles se contredisent? Parcourez l'histoire des siècles et des nations, tant anciennes que modernes, et vous trouverez les hommes assujettis à trois codes, le code de la nature, le code civil et le code religieux, et contraints d'entreprendre alternativement ces trois codes qui n'ont jamais été d'accord, d'où il est arrivé qu'il n'y a eu dans aucune contrée, comme Roux l'a deviné de la nôtre, ni homme, ni citoyen, ni religieux. Oh, d'où vous conclurez sans doute qu'en fondant la morale sur les rapports éternels qui subsistent entre les hommes, la loi religieuse devient peut-être superflue et que la loi civile ne doit être que renonciation de la loi de nature. Et cela, sous peine de multiplier les méchants au lieu de faire des bons. Ou que, si l'on juge nécessaire de les conserver toutes trois, il faut que les deux dernières ne soient que des calques rigoureux de la première, que nous apportons gravée au fond de nos cœurs et qui sera toujours la plus forte. Non, cela n'est pas exact. Nous n'apportons en naissant qu'une similitude d'organisation avec d'autres êtres, les mêmes besoins, de l'attrait vers les mêmes plaisirs, une aversion commune pour les mêmes peines. Voilà ce qui constitue l'homme, ce qu'il est, et doit fonder la morale qui lui convient. Cela n'est pas aisé, cela est si difficile, que je croirais volontiers le peuple le plus sauvage de la terre, le Tahitien, qui s'en est tenu scrupuleusement à la loi de la nature, plus voisin d'une bonne législation qu'aucun peuple civilisé. Parce qu'il lui est plus facile de se défaire de son trop de rusticité qu'à nous de revenir sur nos pas et de réformer nos abus, surtout ceux qui tiennent à l'union de l'homme et de la femme. Cela se peut, mais commençons par le commencement. Interrogeons bonnement la nature et soyons sans partialité ce qu'elle nous répondra sur ce point. J'y consens. Le mariage est-il dans la nature ? Si vous entendez par le mariage la préférence qu'une femelle accorde à un mâle sur tous les autres mâles, ou celle qu'un mâle donne à une femelle sur toutes les autres femelles, préférence mutuelle en conséquence de laquelle il se forme une union plus ou moins durable qui perpétue l'espèce par la reproduction des individus, le mariage est dans la nature. Je le pense comme vous, car cette préférence se remarque non seulement dans l'espèce humaine, mais encore dans les autres espèces d'animaux. Témoin, ce nombreux cortège de mâles qui poursuivent une même femelle au printemps dans nos campagnes et dont un seul objet obtient le titre de mari. Et la galanterie ? Oh, si vous entendez par galanterie cette variété de moyens énergiques ou délicats que la passion inspire, soit au mâle, soit à la femelle, pour obtenir cette préférence qui conduit à la plus douce, la plus importante et la plus générale des jouissances, la galanterie est dans la nature. Je pense comme vous. Témoin, cette diversité de gentillesse pratiquée par le mâle pour plaire à la femelle, par la femelle pour irriter la passion et fixer le goût du mâle, et la coquetterie. C'est un mensonge qui consiste à simuler une passion qu'on ne sent pas et à promettre une préférence qu'on n'accordera pas. Le mâle coquet se joue de la femelle. La femelle coquette se joue du mâle. Jeu perfide qui amène quelquefois les catastrophes les plus funestes. Manège ridicule dont le trompeur et le trompé sont également châtiés par la perte des instants les plus précieux de leur vie. Ah, ainsi la coquetterie, selon vous, n'est pas dans la nature. Je ne dis pas cela. Et la constance ? Je ne vous en dirai rien de mieux que ce qu'en a dit Horou à l'aumônier. Pauvre vanité de deux enfants qui s'ignorent eux-mêmes et que l'ivresse d'un instant aveugle sur l'instabilité de tout ce qui les entoure. Et la fidélité, ce rare phénomène, presque toujours l'entêtement et le supplice de l'honnête homme et de l'honnête femme dans nos contrées. Chimère à Tahiti. Et la jalousie, passion d'un animal indigent et avare qui craint de manquer, sentiment injuste de l'homme, conséquence de nos fausses mœurs et d'un droit de propriété étendu sur un objet sentant, pensant, voulant et libre. Ainsi, la jalousie, selon vous, n'est pas dans la nature. Je ne dis pas cela. Vices et vertus, tout est également dans la nature. Mais le jaloux est sombre, comme le tyran, parce qu'il en a la conscience. La pudeur. Vous m'engagez là dans un cours de morale galante. L'homme ne veut être ni troublé ni distrait dans ses jouissances. Celles de l'amour sont suivies d'une faiblesse qu'il abandonnerait à la merci de son ennemi. Voilà tout ce qu'il peut y avoir de naturel dans la pudeur. Le reste est d'institution. L'aumônier remarque dans un troisième morceau que je ne vous ai point si lu que le Bahitien ne rougit pas des mouvements involontaires qui s'excitent en lui à côté de la femme au milieu de ses filles, et que celles-ci en sont spectatrices, quelquefois émues, jamais embarrassées. Aussitôt que la femme devint la propriété de l'homme, et que la jouissance furtive d'une fille fut regardée comme un vol, on vit naître les termes pudeur, retenue, bienséance, des vertus et des vices imaginaires. En un mot, on voulut élever entre les deux sexes des barrières qui les empêchassent de s'inviter réciproquement à la violation des lois qu'on leur avait imposées, et qui produisirent souvent un effet contraire, en échauffant l'imagination et en irritant les désirs. Lorsque je vois des arbres plantés autour de nos palais et un vêtement de cou qui cache et montre une partie de la gorge d'une femme, il me semble reconnaître un retour secret vers la forêt et un appel à la liberté première de notre ancienne demeure. Le Tahitien nous dirait « Mais pourquoi te caches-tu? De quoi es-tu honteux? Fais-tu le mal quand tu cèdes à l'impulsion la plus auguste de la nature ? Homme, présente-toi franchement, si tu plais. Femme, si cet homme te convient, reçois-le avec la même franchise. Oh non, non, ne vous fâchez pas. Si nous débutons comme des hommes civilisés, il est rare que nous ne finissions pas comme le Tahitien. Oui, j'ai préliminaire de convention. Consume la moitié de la vie d'un homme de génie. J'en conviens. Mais qu'importe si cet élan pernicieux de l'esprit humain, contre lequel vous vous êtes récrié tout à l'heure, en est d'autant plus ralenti. Un philosophe de nos jours interrogeait pourquoi les hommes faisaient la cour aux femmes, et non les femmes la cour aux hommes, répondit qu'il était naturel de demander à celui qui pouvait toujours accorder. Cette raison m'a paru de tout temps plus ingénieuse que solide. La nature, indécente si vous voulez, pousse instinctivement un sexe vers l'autre, et dans un état de l'homme brut et sauvage qui se conçoit, mais qui n'existe peut-être nulle part. Pas même à Tahiti ? Non, l'intervalle qui séparerait un homme d'une femme serait franchi par le plus amoureux. S'ils s'attendent, s'ils se fuient, s'ils se poursuivent, s'ils s'évitent, s'ils s'attaquent, s'ils se défendent, c'est que la passion, inégale dans ses progrès, ne s'applique pas en eux de la même force. D'où il arrive que la volupté se répand, se consomme et s'éteint d'un côté, lorsqu'elle commence à peine à s'élever de l'autre, et qu'ils en restent tristes tous deux. Voilà l'image fidèle de ce qui se passerait entre deux êtres jeunes, libres et parfaitement innocents. Mais lorsque la femme a connu, par l'expérience ou l'éducation, les suites plus ou moins cruelles d'un moment doux, son cœur frissonne à l'approche de l'homme. Le cœur de l'homme ne frissonne point. Ses sens commandent et il obéit. Les sens de la femme s'explique et elle craint de les écouter. C'est l'affaire de l'homme que de la distraire, de sa crainte, de l'enivrer et de la séduire. L'homme conserve toute son impulsion naturelle vers la femme. L'impulsion naturelle de la femme vers l'homme, dirait un géomètre, est en raison composée de la directe de la passion et de l'inverse de la crainte. Raison qui se complique d'une multitude d'éléments divers dans nos sociétés, éléments qui concourent presque tous à accroître la pusillanimité d'un sexe et la durée de la poursuite de l'autre. C'est une espèce de tactique où les ressources de la défense et les moyens de l'attaque ont marché sur la même ligne. On a consacré la résistance de la femme, on a attaché l'ignominie à la violence de l'homme, violence qui ne serait qu'une injure légère dans Tahiti et qui devient un crime dans nos cités. Mais comment est-il arrivé qu'un acte dont le but est si solennel et auquel la nature nous invite par l'attrait le plus puissant, que le plus grand, le plus doux, le plus innocent des plaisirs, soit devenue la source la plus féconde de notre dépravation et de nos maux? Or, où l'a fait entendre 10 fois l'aumônier? Écoutez-le donc encore et tâchez de le retenir. C'est par la tyrannie de l'homme qui a converti la possession de la femme en une propriété, par les mœurs et les usages qui ont surchargé de conditions l'union conjugale, par les lois civiles qui ont assujetti le mariage à une infinité de formalités, par la nature de notre société où la diversité des fortunes et des rangs a institué des convenances et des disconvenances, par une contradiction bizarre et commune à toutes les sociétés subsistantes, où la naissance d'un enfant, toujours regardée comme un accroissement de richesse pour la nation, est plus souvent et plus sûrement encore un accroissement d'indigence dans la famille. Par les vues politiques des souverains qui ont tout rapporté à leur intérêt et à leur sécurité, par les institutions religieuses qui ont attaché les noms des vices et de vertus à des actions qui n'étaient susceptibles d'aucune moralité. Combien nous sommes loin de la nature et du bonheur. L'empire de la nature ne peut être détruit. On aura beau le contrarier par des obstacles, il durera. Écrivez tant qu'il vous plaira sur des tables d'airain, pour me servir des expressions du sage Marc Aurèle, que le frottement voluptueux de deux intestins est un crime. Le cœur de l'homme sera froissé entre la menace de votre inscription et la violence de ses penchants. Mais ce cœur indocile ne cessera de réclamer, et 100 fois dans le cours de la vie, vos caractères effrayants disparaîtront à nos yeux. Gravé sur le marbre, tu ne mangeras ni de lixion ni du griffon, tu ne connaîtras que la femme, tu ne seras point le mari de ta sœur. Mais vous n'oublierez pas d'accroître les châtiments à proportion de la bizarrerie de vos défenses. Vous deviendrez féroce et vous ne réussirez point à me dénaturer. Oh, que le spectacle des nations serait court si on le conformait rigoureusement à celui de la nature. Combien d'erreurs et de vices épargnés à l'homme! Voulez-vous savoir l'histoire abrégée de presque toute notre misère? La voici. Il existait un homme naturel. On a introduit au-dedans de cet homme un homme artificiel. Et il s'est élevé dans la caverne une guerre civile qui dure toute la vie. Tantôt l'homme naturel est le plus fort, tantôt il est terrassé par l'homme moral et artificiel. Et dans l'un et l'autre cas, le triste monstre est tiraillé, tenaillé, tourmenté, étendu sur la roue, sans cesse gémissant, sans cesse malheureux, soit qu'un faux enthousiasme de gloire le transporte et l'enivre, ou qu'une fausse ignominie le courbe et l'abatte. Cependant, il y a des circonstances extrêmes qui ramènent l'homme à sa première simplicité. La misère et la maladie, deux grands exorcistes, vous les avez nommés. En effet, que deviennent alors toutes ces vertus conventionnelles? Dans la misère, l'homme est sans remords, et dans la maladie, la femme est sans pudeur. Je l'ai remarqué, mais un autre phénomène qui ne vous aura pas échappé davantage, c'est que le retour de l'homme artificiel et moral suit pas à pas les progrès de l'état de maladie à l'état de convalescence et de l'état de convalescence à l'état de santé. Le moment où l'infirmité cesse est celui où la guerre intestine recommence, et presque toujours avec des avantages pour l'intrus. Il est vrai, j'ai moi-même éprouvé que l'homme naturel avait dans la convalescence une vigueur funeste pour l'homme artificiel et moral. Mais enfin, dites-moi, faut-il civiliser l'homme ou l'abandonner à son instinct? Faut-il vous répondre net? Sans doute. Si vous vous proposez d'en être le tyran, civilisez-le. Empoisonnez-le de votre mieux, d'une morale contraire à la nature. Faites-lui des entraves de toute espèce. Embarrassez ses mouvements de 1000 obstacles. Attachez-lui des fantômes qui l'effraient. Éternisez la guerre dans la caverne et que l'homme naturel y soit toujours enchaîné sous les pieds de l'homme moral. Le voulez-vous heureux et libre? Ne vous mêlez pas de ses affaires. Assez d'incidents imprévus le conduiront à la lumière et à la dépravation. Et demeurez à jamais convaincu que ce n'est pas pour vous, mais pour eux, que ces sages législateurs vous ont pétri et maniéré. Comme vous l'êtes. J'en appelle à toutes les institutions politiques, civiles et religieuses. Examinez-les profondément. Et je me trompe fort ou vous y verrez l'espèce humaine pliée de siècle en siècle au joug qu'une poignée de fripons se promettait de lui imposer. Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre. Ordonner, c'est toujours se rendre le maître des autres en les gênant. Et les Calabrais sont presque les seuls à qui la flatterie des législateurs n'en est point encore imposée. Et cette anarchie de la Calabre vous plaît. J'en appelle à l'expérience. Et je gage que leur barbarie est moins vicieuse que notre urbanité. Combien de petites scélératesses compensent ici l'atrocité de quelques grands crimes dont on fait tant de bruit. Je considère les hommes non civilisés comme une multitude de ressorts épars et isolés. Sans doute, s'il arrivait à quelques-uns de ces ressorts de se choquer, l'un ou l'autre, ou tous les deux, se briseraient. Pour obvier à cet inconvénient, un individu d'une sagesse profonde et d'un génie sublime rassembla ses ressorts et en composa une machine. Et dans cette machine appelée société, tous les ressorts furent rendus agissants, réagissant les uns contre les autres, sans cesse fatigués. Et il s'en rompit plus dans un jour sous l'état de législation qu'il ne s'en romprait en un an sous l'anarchie de nature. Mais quel fracas, quel ravage, quelle énorme destruction des petits ressorts, lorsque deux, trois, quatre de ces énormes machines vinrent à se heurter avec violence. Ainsi, vous préféreriez l'état de nature brute et sauvage. Ma foi, je n'oserais prononcer. Mais je sais qu'on a vu plusieurs fois l'homme des villes se dépouiller et rentrer dans la forêt, et qu'on n'a jamais vu l'homme de la forêt se vêtir et s'établir dans la ville. Il m'est souvent venu dans la pensée que la somme des biens et des maux était variable pour chaque individu, mais que le bonheur ou le malheur d'une espèce animale quelconque avait sa limite qu'elle ne pouvait franchir, et que peut-être nos efforts nous rendaient en dernier résultat autant d'inconvénients que d'avantages, en sorte que nous nous étions bien tourmentés pour accroître les deux membres d'une équation entre lesquels il subsistait une éternelle et nécessaire égalité. Cependant, je ne doute pas que la vie moyenne de l'homme civilisé ne soit plus longue que la vie moyenne de l'homme sauvage. Et si la durée d'une machine n'est pas une juste mesure de nos sons, plus ou moins de fatigue, quand concluez-vous? Je vois qu'à tout prendre, vous inclineriez à croire les hommes d'autant plus méchants et plus malheureux qu'ils sont plus civilisés. Bon, je ne parcourrai point toutes les contrées de l'univers, mais je vous avertis seulement que vous ne trouverez les conditions de l'homme heureuse que dans tactile et supportable que dans un recoin de l'Europe. Là, des maîtres ombrageux et jaloux de leur sécurité se sont occupés à le tenir dans ce que vous appelez l'abrutissement. À Venise, peut-être. Pourquoi non ? Vous ne direz pas, du moins, qu'il y a nulle part moins de lumières acquises, moins de morale artificielle et moins de vices et de vertus chimériques. Je ne m'attendais pas à l'éloge de ce gouvernement. Oh, si ne le fais-je pas, je vous indique une espèce de dédommagement de la servitude que tous les voyageurs ont senti et préconisé. Pauvre dédommagement ! Peut-être. Les Grecs proscrivirent celui qui avait ajouté une corde à la lyre de Mercure. Et cette défense est une satire sanglante de leur premier législateur. C'est la première corde qu'il fallait couper. Vous m'avez compris. Partout où il y a une lyre, il y a des cordes. Tant que les appétits naturels sont sophistiqués, comptez sur des femmes méchantes. Ben oui, comme la Rimère, sur des hommes atroces, comme Gardeil, et sur des infortunés à propos de rien. Ben oui, comme Tanier, Mademoiselle de la Chaux, le Chevalier des Roches et Madame de la Carlière. Il est certain qu'on chercherait inutilement dans Tahiti des exemples de la dépravation des deux premiers et du malheur des trois derniers. Que ferons-nous donc? Reviendrons-nous à la nature? Nous soumettrons-nous aux lois? Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme. Et en attendant, nous nous y soumettrons. Celui qui, de son autorité privée, enfreint une mauvaise loi, autorise tout autre à enfreindre les bonnes. Il y a moins d'inconvénients à être fou avec des fous qu'à être sage tout seul. Disons-nous à nous-mêmes, crions incessamment qu'on a attaché la honte, le châtiment et l'ignominie à des actions innocentes en elles-mêmes. Mais ne les commentons pas, parce que la honte, le châtiment et l'ignominie sont les plus grands de tous les maux. Imitons le bon aumônier, moine en France, sauvage en Tahiti. Prendre le frog du pays où l'on va et garder celui du pays où l'on est. Et surtout, être honnête et sincère jusqu'au scrupule avec des êtres fragiles qui ne peuvent faire notre bonheur sans renoncer aux avantages les plus précieux de nos sociétés. Ah, et ce brouillard épais, qu'est-il devenu? Oh, il est tombé. Et nous serons encore libres cet après-dîner de sortir ou de rester? Cela dépendra, je crois, un peu plus des femmes que de nous. Toujours les femmes, on ne saurait faire un pas sans les rencontrer à travers son chemin. Et si nous leur disions l'entretien de l'aumônier et de roux? À votre avis, qu'en dirait-elle? Oh, j'en sais rien. Et qu'en penserait-elle? Peut-être le contraire de ce qu'elles en diraient.